France Info.
France Info. Un monde d'infos à 16h17 sur France Info, votre magazine de reportage avec tous nos correspondants à l'étranger. Au menu cet après-midi, les baignades dans le Gange en Inde, tradition séculaire hindoue qui devient dangereuse à cause de la pollution du fleuve. On ira en Hongrie où le gouvernement de droite se met à taper sur les ONG qui prônent un peu trop fort la démocratie. La Russie qui donne l'heure, le secteur de l'horlogerie est en pleine renaissance à Saint-Pétersbourg. Et puis un peu de poésie pour finir avec cet exploit des scientifiques japonais qui sont parvenus à faire vivre des fleurs plus longtemps. C'est une image d'Épinal quand on pense à l'Inde, ces millions de personnes qui se baignent dans le Gange, car pour les hindous, vous le savez peut-être, le fleuve possède la vertu de les purifier. Les purifier peut-être, en tout cas les rendre malades, ça c'est sûr, c'est la conclusion plus pragmatique des scientifiques. L'eau du Gange est cancérigène. À New Delhi, les explications de Sébastien Farcy.
L'année dernière, plus de 100 millions de fidèles se sont baignés dans le Gange lors du gigantesque pèlerinage du Mahakumbh Mela. Des scientifiques d'un centre d'Hyderabad ont alors prélevé de cette eau pour y trouver un niveau 50 fois trop élevé de chrome 6, un métal qui peut provoquer des ulcères et des cancers du poumon. Ces résidus proviendraient des rejets d'acide, des usines de tannage de cuir qui opèrent le long du fleuve sacré. Cela fait des années que les écologistes affirment que le Gange est devenu toxique. Rien qu'à Bénarès, les trois quarts des eaux usées y sont rejetées sans être traitées et 30 000 cadavres y sont déposés chaque année en espérant une résurrection heureuse. Des millions d'euros ont déjà été investis pour le nettoyer, mais sans coordination. Ceci pourrait changer à présent. Le Premier ministre Narendra Modi, qui a été élu député de Bénarès, en a fait une mission de son mandat et a créé un ministère du rajeunissement du Gange. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Info.
Direction la Hongrie à présent avec le gouvernement qui s'attaque aux ONG. Budapest a en effet lancé une enquête sur une cinquantaine d'associations présentes dans le pays. Elles ont tout un point commun, elles sont subventionnées par la Norvège pour promouvoir les libertés civiques. Et ça, eh bien, ça ne plaît pas du tout à la droite conservatrice au pouvoir. À Budapest, Florence Labruyère.
C'est un bar avec un jardin, comme beaucoup de comptoirs à Budapest. Mais c'est le seul à proposer une spécialité de la cuisine tzigane, le bodog.
Donc le bodog est un peu comme une panini fourrée de lait chaud, donc comme une ratatouille ou de choux, de choucroute.
Les pains sont fabriqués par une association de quartier qui veut faire connaître la culture tzigane. Grâce à la Norvège, qui a donné 9000 euros, l'association a pu lancer son projet. Mixi Garay, membre fondatrice de l'association.
Donc le but de ce projet, c'est d'une part générer des recettes pour l'association, d'être une possibilité de formation pour des jeunes. C'est de lutter aussi contre les préjugés, de montrer quelque chose de la culture tzigane, de la gastronomie tzigane.
La Norvège finance des centaines de projets pour renforcer la démocratie. Mais démocratie, c'est presque un gros mot pour le gouvernement nationaliste de Viktor Orban, qui a lancé une enquête sur une cinquantaine d'ONG financées par la Norvège, notamment l'Association pour les libertés civiques. Cette petite ONG ne reçoit aucune subvention de l'État hongrois, alors elle a refusé le contrôle. Mathé Daniel Sabot, directeur juridique de l'ONG.
Cet argent que nous recevons, ce n'est pas de l'argent public hongrois, c'est de l'argent norvégien. L'office du gouvernement a pour mission de contrôler l'argent de l'État hongrois. Cette enquête est donc complètement illégale.
Le gouvernement hongrois aimerait contrôler lui-même les fonds norvégiens, mais la Norvège refuse. Budapest, Florence Labruyère, France Info.
À 2000 km au nord-est de Budapest, à présent Saint-Pétersbourg, où un monde d'infos nous emmène. Saint-Pétersbourg, plus connu pour ses canaux et ses ponts que pour ses montres. Et pourtant, en URSS, en ex-URSS, si vous n'aviez pas eu une Rakéta avant vos 50 ans, c'est que vous aviez raté votre vie. Rakéta, c'est une marque mythique de montres disparue à la chute du communisme. L'usine qui fabrique à nouveau depuis quelques années, Marc Crépin.
L'usine de montres de Peterhof, près de Saint-Pétersbourg, n'a pas bougé. Avec sa marque emblématique, Rakéta, elle était devenue l'un des labels les plus prestigieux d'Union soviétique. Le cosmonaute Gagarine, Gorbatchev, chacun avait sa Rakéta. L'usine horlogère est née au XVIIIe siècle et c'est ici qu'un Français, un beau jour, va relancer la marque. Récemment, Jean-Claude Quenet, un ingénieur suisse, a décidé de le rejoindre, venu de chez Rolex. Et promu directeur technique, il est heureux de tenter l'aventure.
C'est une entreprise qui a été créée par Pierre Legrand il y a plus de 290 ans. Cette entreprise a connu son apogée il y a 20 ans, ils étaient 8000, ils faisaient 6 millions de montres par année. La chute du communisme a fait que tout s'est arrêté en quelques mois. Et puis là, on est en train de faire en sorte que ça redevienne une jolie manufacture.
Et ce Français qui a repris les rênes de Raketa est Jacques von Paulier, un entrepreneur parisien arrivé en Russie il y a 18 ans.
Toutes les marques de l'époque soviétique ont fermé, ont disparu dans les années 90 où plus personne s'intéressait à eux. Et je suis tombé sur cette industrie horlogère qui était très intéressante en Russie, puisque d'abord elle était très puissante, c'était la plus grosse industrie horlogère au monde avec la Suisse. Elle est historiquement intéressante aussi puisque c'est eux qui ont fabriqué toutes les montres des premiers cosmonautes, les montres des militaires, les montres des pilotes de chasse, des pilotes de MiG. Donc techniquement, c'est aussi un vrai savoir-faire et qui était d'autant plus intéressant que c'est une usine pré-révolutionnaire. Donc elle a 300 ans d'histoire. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'elle a un savoir-faire absolument unique.
Ce savoir-faire, elle le doit à un homme, Evgeny Lednev. Une montre Raketa est constituée de 250 pièces, mais l'une de ces pièces, qui s'appelle le Spiral, a une place très spéciale dans le mécanisme. Façonnée dans un alliage secret et avec une méthode secrète, elle donne à une montre ce qu'elle peut avoir de plus précieux, son exactitude.
Le Spiral, c'est que c'est une pièce qu'on ne trouve pas dans la littérature. Comment faire cette pièce ? C'est des choses qui se sont transmises de bouche à oreille. On n'apprend pas ça dans les universités ni dans les écoles, c'est vraiment dans les entreprises. Et puis il y a une dizaine de personnes qui savent faire ça dans le monde. Puis il y en a une ici, en Russie, qui sait faire ça.
Dans les ateliers, on rencontre aussi bien le doyen de l'équipe, septuagénaire, que le cadet, 23 ans, Alexandre. Il a quitté Vladivostok à 9000 km d'ici pour réaliser son rêve.
Raketa est une vraie marque russe. Il n'y en a plus d'autres aujourd'hui, à part nous.
Pour l'instant, Raketa produit environ 30 000 montres par an. Objectif 2014, le double.
Les fleurs, c'est bien connu, sont périssables. Eh bien, au Japon, c'est une première. Les chercheurs ont réussi à rallonger la vie des bouquets. À Tokyo, les précisions de Frédéric Charles.
Des chercheurs japonais ont identifié un gène lié au vieillissement des pétales de fleurs. Ce gène est appelé éphéméral 1. Vous le supprimez et la durée de vie de la fleur double. Des fleurs génétiquement modifiées restent épanouies pendant 24 heures. Il serait irréaliste de modifier des gènes de toutes sortes de fleurs, mais on doit pouvoir faire absorber aux fleurs coupées une solution qui empêcherait le gène éphéméral 1 de devenir actif. Pour certaines fleurs populaires, comme les tulipes, les lys, les chercheurs japonais croient pouvoir prolonger leur durée de floraison. Tokyo, Frédéric Charles, RFI, pour France Info.
Et tous les reportages que vous venez d'entendre sur ce monde d'info sont à retrouver sur notre site internet franceinfo.fr.